bonsoir, bonsoir à toi. Même si tu as un petit bout de générique en moins, c'est bien la causerie qui démarre ce soir à 22h sur les ondes de Radio Canu, dimanche 10 novembre, avec à la technique Clara.
Bonsoir.
Bonsoir. Et dans les studios, Jean-Yves.
Bonsoir, Fab.
Bonsoir. Alors, je sais, toi qui nous écoutes, que tu te réveilles avec une petite gueule de bois qui a duré depuis une petite semaine, depuis mardi soir, où tu as appris que les Américains avaient choisi un néo-fasciste pour les diriger. Et tu te dis, ah, ces Américains, qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais en fait, tu ne regardes pas vraiment qu'en France, c'est à peu près pareil. Et qu'en France aussi, ils ont choisi, pour la grande majorité, un des néo-fascistes pour les diriger. Donc voilà, évite de juger un peu hâtivement les Américains. Et dis-toi qu'il y a du boulot, ça ira mieux. Voilà, j'espère que je t'ai remonté un peu le moral. Non ? Oui ? On ne sait pas.
On ne sait pas.
Ah bah voilà.
En tout cas, c'est une petite mise au point.
Bah j'ai tenté. Non mais parce que c'est vrai qu'il y a un côté très pédant à regarder ça et à dire « Oh, qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces Américains !»
Ouais. Oui, mais c'est normal. Nous sommes la France, enfin. Ouais. Pays de culture, voilà. De savoir, pays de la démocratie. Hein.
Pays où 250 000 personnes ont précommandé le livre de Jordan Bardella.
C'est vrai. Okay, aussi.
Voilà. Donc, c'était juste pour dire... Regarde pas la paille dans l'œuf du voisin quand t'as la poutre dans le tien. Voilà.
Donc, un homme en a dit que la France était un pays de culture, hein, et la causerie, je crois que vraiment, on est au summum. Oh. Alors, ce soir, c'est Fab qui ouvre le bal,
ouais.
En nous parlant de la guerre à la drogue.
Oui, c'est la guerre contre la drogue. Enfin, c'est la nouvelle blablague de la guerre contre la drogue. Donc, la guerre est donc déclarée pour la 50e fois contre la drogue. Hein. Ah, qu'ils étaient beaux, les ministres de l'Intérieur, de la Justice et tout, parce qu'il y en a d'autres, mais je ne me rappelle plus qui c'était, de parler de leur nouveau plan contre la drogue qui allait, soyez-en certains, lancer la guerre définitive contre ce fléau et mettre fin à tous les problèmes liés à la drogue. Promis, juré, craché. Bon, rien de bien neuf. Hein. Une énième loi pour enfermer en taule les dealers toujours plus vite et sans procès équitable, hein, parce que faudrait pas déconner. Plein de keufs en plus, hein, évidemment, et de moyens de répression en plus, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. La demande d'une loi pour mettre en place une sorte de loi martiale temporaire. C'est joli, hein, dit comme ça, sur certains quartiers. L'idée lancée d'envoyer l'armée contre les points de deal. Et dernier petit truc à la mode qui est sorti aujourd'hui, l'idée d'aller envoyer des gamins à l'armée s'ils étaient un peu trop désœuvrés. Voilà.
Non, dans une école encadrée par l'armée.
Ah oui, pardon.
Nuance.
Bref, c'est juste la poursuite en fait d'une politique répressive, hein, qui est mise en place depuis les années 80, répétée 50 fois depuis, mais qui n'a en fait que très peu d'effet sur le trafic de drogue et la consommation. Mais qui par contre peut permettre de devenir président. Quand on fait bien de l'agitation politique, comme pour Sarkozy, rappelez-vous. Vous voyez qu'on vous débarrasse de ces racailles ? Voilà, bon, bah, je l'imite très mal. Hein. Autour de tout cela. De là à dire que Retailleau est plus intéressé par sa carrière politique que par le sort des consommateurs et revendeurs de drogue, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Voilà. Parce qu'aucune des mesures, toutes basées sur une diabolisation des personnes qui consomment et sur les petites mains qui revendent, ne fonctionnera, et ça, ils le savent très bien. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est de faire peur à la population en parlant de narco-racaille, de mexicanisation du pays et autres, et de faire accepter qu'au fond, qu'importe la liberté, tant qu'on a la sécurité, n'est-ce pas ? Parce que c'est tout ça, hein, le discours qui est derrière tout ça. Oui, ce qui est mis en place, soi-disant pour contrer les trafics de drogue, sera demain l'outil qui sera utilisé pour contrer les révoltes sociales et autres. Oui, parce qu'ils n'ont pas oublié les révoltes des banlieues. Hein. Et comme les points de deal sont quand même majoritairement dans les banlieues, faire des lois d'exception, ça les fait un petit peu friser de la moustache. Ouais. Comme avec d'ailleurs la sécurité des JO, hein, le ministre surfe sur les derniers règlements de compte et prise de pouvoir par des cartels pour jouer la carte du tout sécuritaire. Alors je le précise, ces affrontements et morts en lien avec le trafic de stupéfiants et la prise de territoire, donc de part de marché, sont inadmissibles et à dénoncer. Aucun problème là-dessus. Mais ce n'est que l'application stricte d'un capitalisme dérégulé dans toute sa laideur. Et pour l'âge des morts et des tueurs, il faut quand même avoir la mémoire un peu courte pour s'étonner que l'argent facile fascine une jeunesse perdue, déclassée et subissant le rejet social. Cela a toujours été, et même un certain Émile Zola en parlait déjà dans ses livres. Oui, ça date pas d'hier.
Non, ça date pas d'hier.
Je me doute que Retailleau a jamais lu Zola, mais enfin, ça c'est un autre problème. Bon, donc il faut prendre le problème à l'envers, en fait, pour mieux s'en servir. C'est ce que les politiques nous disent. Car les ministres savent pertinemment qu'ils prennent le problème de fait à l'envers, mais ils savent aussi que ce sera bon pour la carrière, hein, comme le disait. comme je le disais. Le trafic mondial de drogue, hein, je le rappelle, représente environ 250 milliards de dollars dans le monde. C'est plus que le PIB de la Finlande, hein, pour que vous voyez. Et 4,5 milliards de dollars en France. Enfin, ou d'euros, parce qu'on n'est pas très loin. Si on prend les chiffres d'évaluation de l'INSEE, hein, c'est que intéressant. L'INSEE estime que c'est 21 000 équivalents temps plein en emploi, le trafic de drogue, tout ça, qui sont autour du trafic. On est donc là sur une économie massive et inventive. D'ailleurs, on sait aussi que les mesures qui arrivent après la modification des habitudes, enfin ces mesures elles arrivent après la modification des habitudes, il y a des rapports hein, qui existent sur le trafic de drogue, et on sait que les points de deal sont majoritairement utilisés par les plus pauvres, ou les plus désœuvrés socialement, les autres ayant les moyens d'utiliser des livreurs à domicile. Oui, parce que l'uberisation, elle touche aussi le secteur de la drogue. Hein, vous voyez, donc on a maintenant Uber Shit.
Oui, oui, en plus...
Ou Uber Coke.
Tu l'as dit avant, enfin je veux dire, on va dire les gros barons de la CAM, ce sont des enfoirés de capitalistes comme les autres, en fait.
Ah,
il n'y a pas d'héroïsme dans le fait d'être un capitalo hors des clous et qui finalement va faire comme si tu ne mettais pas de règles au patronat, c'est-à-dire utiliser les plus fragiles jusqu'à ce qu'ils crèvent, parce qu'en fait, ils n'en ont rien à secouer. Et leur seule chose qui les intéresse, c'est le business et de rentrer de la thune. Quoi.
Et les parts de marché.
Oui, les parts de marché, clairement.
Bref, tout ça pour dire qu'on ne tue pas une économie aussi forte hein, avec des mesures qui ne fera pas réellement l'économie. Parce qu'il faut quand même être un peu logique. Voilà, c'est ça qui... Le nerf de la guerre, c'est les sous. Une des premières mesures, et sans doute l'une des plus efficaces, hein, serait de légaliser l'usage du cannabis. Bah oui, parce qu'il y a 5 millions de personnes qui en prennent au moins une fois par mois et 1 million chaque jour en France. Alors, j'entends déjà les gens de l'autre côté, surtout si on a des réacs qui nous écoutent, ça peut arriver, hein, se tromper de radio dans la voiture.
Oui, il peut y avoir aussi des réacs qui se croient pas réacs.
Oui. Alors, ne soyez pas choqués, hein, parce qu'en fait, 1 million de personnes qui prennent du cannabis chaque jour, c'est 6 à 7 fois moins que l'alcool. Hein, donc on se détend, voilà. Et il faut se rappeler qu'il y a entre donc 30 et 41 millions de personnes qui boivent de l'alcool au moins une fois par semaine. Donc vous êtes dans des chiffres par rapport aux drogues qui sont à peu près normaux, enfin normaux, peut-être pas, mais en tout cas qui sont équivalents. Et aucune étude toxicologique sérieuse n'a été menée en France sur le cannabis du fait de la loi qui interdit de le faire. C'est un peu le chat qui se mord la queue. Vous voyez, c'est le truc, on interdit, on n'a pas le droit d'étudier, donc on n'étudie pas, on ne sait pas ce que c'est, et puis on continue à interdire.
Mais ce qui en même temps n'empêche pas les politicards de parler de méfaits sur la santé sans avoir finalement aucune étude vraiment, parce que ça ne peut pas être fait, en tout cas en France. Et je ne suis pas certain que ces gens-là, ou en tout cas leurs délégués ministériels et tout leur cabinet, parce que bon, les ministres ne servent pas vraiment à grand chose si ce n'est à répéter ce que disent leurs attachés, mais en fait je pense pas qu'ils soient allés chercher des études faites à l'étranger, etc. Enfin,
bah non, parce
avec
que
un vrai appui scientifique, quoi.
S'ils y étaient allés justement dans les pays où c'est légalisé, il a été démontré que les effets délétères sont largement inférieurs à ceux de l'alcool et des médicaments pour le cannabis. Hein, donc, on aurait là un bon moyen de sortir une part très importante du trafic des mains des narcos. Et comme le préconisent des chercheurs en sociologie et, je précise, en économie, si on autorise l'autoproduction, on peut tarir complètement le trafic autour du cannabis. Mais pour aller vers ça, encore faudrait-il que ces chers ministres aient une vision non pas moraliste sur les drogues, mais scientifique, claire et qui mesure réellement les effets. Vous voyez, c'est juste un petit peu ce qu'on appelle faire de la médecine, de la prévention, tout ça. Ouais, bon. Autre point. Comment peut-on nous faire croire qu'un trafic brasse donc des centaines de milliards de dollars, mais qu'on n'arrive pas à tracer cela et trouver les commanditaires et les comptes à saisir? On est donc capable d'aller traquer la moindre micro-fraude sur le RSA, mais là, pouf, pouf, on trouve rien et on n'y arrive pas. Étonnant, non? Eh ben non! C'est une question de choix et de priorité. Et la France, comme l'Europe, ont méticuleusement démonté les outils de contrôle des malversations financières, comme le fameux TRACFIN en France. Alors, en leur donnant de moins en moins de moyens, ou de plus en plus de missions, dont des missions qui servent à rien. Et TRACFIN le sait, mais comme on lui donne la mission, il est obligé de le faire. Et puis, quand vous avez plein de missions et pas de moyens, vous n'avez pas le temps d'aller regarder. Il faut dire que ces cellules, elles permettaient aussi de trouver des malversations chez les politiques et chez les milliardaires. Donc, faut pas déconner, hein. Faut les faire disparaître. Parce que, bon, quand même, après, ils savent ce qu'on fait, quoi. Hein, big up Marine Le Pen, parce que c'est comme ça qu'on est pour les attachés parlementaires. Ouais. Et ben oui, c'est que les narcotrafiquants sont en fait de la même classe que les politiques et les possédants du CAC 40, par exemple. C'est que c'est un peu des potes de fiesta, quoi. Hein, voilà. Parce que bon, ces milliards, ils circulent pas dans des valises. Hein. Ouais, alors parce que ça, c'est dans les séries et les films, hein, mais dans la vraie vie, ça circule pas dans des valises. Parce que je voulais juste imaginer le nombre de valises qu'il faut pour 250 milliards de dollars. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a des comportes-containers
qu'on fait. Oui, c'est ça, faut passer au mal ou au porte-containers.
Ouais, ça marche pas. Surtout en petite coupure de 1. Voilà, pour que ce soit pas détectable. J'imagine. Donc les banques, en fait, elles les planquent, hein, ces milliards, elles les blanchissent, elles prennent un petit pactole dessus quand même, faut pas déconner. Donc c'est bien plus rentable que la fraude au RSA, hein, vous pensez bien. Donc voilà, il faut arrêter de se mentir, on ne va pas chercher ce qu'on pourrait trouver. Mais c'est une volonté politique de ne pas les chercher. Alors oui, les annonces ne portent pas un seul instant sur un renforcement des moyens pour chercher les flux financiers. On est bien là dans le même schéma que d'habitude. L'État montre du doigt les plus fragiles, les petites mains, pour mieux que les possédants et les riches ne soient pas trop emmerdés. Ça vous rappelle rien ? Ah, ces fonctionnaires feignants, hein, ces travailleurs qui abusent des arrêts maladie, tout ça, tout ça. C'est la même logique, hein, on montre les petits, c'est mieux. Voilà. Rien d'étonnant. Le capitalisme ne va quand même pas se tuer lui-même, va falloir un petit peu l'aider.
Ouais, oui. Peut-être même beaucoup.
Mais beaucoup, mais bon, tout ça pour dire quand même qu'on est entre capitalistes qui s'aiment bien, même s'ils disent se détester. Ouais, parce que 250 milliards, c'est beaucoup.
Ah bah c'est, oui.
C'est énorme pour les banques. Et pour ceux qui voilà, spéculent et tout ça, alors pas déconner. Autre moyen, autre point qui démontre que rien n'est envisagé réellement. Il n'y a pas vraiment de renforcement de moyens d'aide aux personnes dépendantes. Ah si, on nous dit qu'on va faire des messages à la télé. Mais ils vont être bien contents les gens. Oui, parce que rappelons ici hein, que le narcotrafic a cela d'équivalent avec le marché de la santé et de la mort, bah, c'est qu'ils ont des clients captifs. Ben, désolé de le dire comme ça, mais si on parle capitalistiquement parlant, c'est le cas, parce qu'ils ont des gens dépendants. Car oui, les personnes dépendantes voient leur dose devenir l'alpha et l'oméga de leur vie. Alors, je fais une petite précision. À la dépendance au cannabis, je dis bien au cannabis, j'exclus les adolescents, parce qu'il y a une particularité chez les adolescents, n'existe pas après l'âge de 25 ans. Donc, voilà, c'est prouvé, par contre, scientifiquement. Donc, on peut s'arrêter à peu près quand on veut. Par contre, pour les autres drogues, c'est plus compliqué. Notamment les drogues de synthèse. Donc voilà. Donc c'est une énorme souffrance hein, pour ces personnes, même si ça doit jamais justifier les actes qu'elles peuvent commettre quand il ou elle porte atteinte à d'autres personnes, parce que c'est un peu trop facile, mais c'est une réelle souffrance. Donc, un moyen réellement efficace serait de mettre en place des structures d'accueil gratuites et de suivi en très grand nombre. Bah oui, parce que si vous voulez tarir un marché, il suffit que des gens ne consomment plus. C'est un truc bête, hein. Coluche disait déjà ça, si personne l'achetait, ça se vendrait pas. Bon, bah, c'est aussi bête que ça, mais c'est vrai. Alors, une étude de 2023 estimait qu'avec un budget d'un milliard d'euros par an, on pourrait couvrir le territoire de façon suffisamment fine pour que toutes les personnes dépendantes qui le souhaitent puissent être aidées et suivies. Alors oui, amis auditeurs et auditrices, je vous rappelle que le taux de consommation de drogues dures, dites dures, c'est-à-dire hors cannabis, c'est-à-dire héroïne, drogue de synthèse et cocaïne, est à peu près équivalent à la campagne et en ville. Sauf que c'est pas tout à fait les mêmes. Par exemple, à la campagne, c'est plus l'héroïne et en ville, c'est plus la cocaïne. Mais en fait, il y a un taux à peu près équivalent. Donc, oui, il faudrait vraiment mailler le territoire. L'étude soulignait d'ailleurs que ce milliard, hein, qui permettrait, mis bout à bout, en tenant compte des soins évités, des risques d'accidents et des violences, de faire plus de 3 milliards d'économies par ailleurs. Donc en gros, je mets un milliard sur la table, j'en récupère deux. Plutôt intéressant, hein, comme d'un point de vue économique. Parce qu'on a un ministre qui cherche des sous. Ouais, donc c'est des exemples de trucs qu'on peut faire. Donc l'étude soulignait même d'ailleurs que si c'était, enfin pardon, même si c'était pas le cas, hein, que ce milliard ne serait pas perdu, parce qu'on sauve des vies. Donc à un moment donné, voilà, quel est le coût d'une vie? Ce serait le moyen quand même de sauver donc des vies, de tarir la manne des narcotrafiquants. Ah, mais je sais, on va me dire, mais c'est beaucoup un milliard. Parce que ça, souvent, on dit, ah, c'est beaucoup un milliard. Alors, c'est toujours 160 fois moins hein, que les aides versées aux entreprises, dont plus des deux tiers sont des entreprises qui n'ont aucune difficulté et qui ont des bénéfices. Donc, je pense qu'on doit pouvoir trouver un milliard. Assez facilement. Genre, on arrête de verser à Auchan, Michelin, et tous ceux qui licencient en ce moment. Et on
Sanofi.
Ouais, Sanofi. Et on récupère un milliard. Et on les met là. Allez, chiche. Non, bon, d'accord. Ouais, je sais pas, des fois, je suis un peu utopique. Alors, on peut donc constater qu'à aucun moment, on est dans une guerre contre la drogue, hein, comme ils le disent, mais bien dans un affichage politique des plus banals, avec son lot de petites phrases et de coups de menton, avec derrière, bah, en réalité, aucune volonté, si ce n'est, encore une fois, la volonté de se faire une carrière politique sur le dos des plus démunis et des plus faibles. Mais ce qui est le plus frappant, c'est qu'on refuse de voir les tenants du trafic de stupéfiants, bah, que ce ne sont pas les petites mains. Ou des idiots complètement fous. Ce sont des capitalistes très bien organisés qui ont même parfois leur propre armée, comme c'est le cas au Mexique. Oui, alors quand on vous parle de mexicanisation de la France, renseignez-vous de ce qu'est le Mexique. Hein, oui, on est encore très très loin de.
Je me le suis noté parce que justement, enfin quand même déjà, enfin déjà en plus, enfin je trouve que c'est hyper stigmatisant. Enfin, je pense pas que.
Déjà, c'est très raciste envers le Mexique.
Je pense que tous les Mexicains sont pas super heureux d'être dans un état où effectivement les narcotrafiquants peuvent sortir des armes et des montées du monde. Et au Mexique, on compte les morts, les homicides, c'est par milliers, des dizaines de milliers.
Ouais, des disparitions en homicide.
Enfin. Il faut aussi en donner. Ça ne veut pas dire que les morts
c'est pas grave, hein.
qui sont en France ne sont pas graves. Ça, c'est pas ça du tout le propos, mais juste il y a des échelles qui sont plus ou moins valables. Et là, faire un comparatif entre la France, les morts qui sont liés au trafic, etc., avec le Mexique, c'est soit être complètement abruti, soit être complètement populiste.
Ouais.
Et je pense même que.
Les deux.
Le gouvernement peut avoir les deux. Donc voilà.
Mais et surtout,
voilà.
Ça permet d'agiter la peur.
Mais oui, c'est ça.
En fait, donc, ces narcotrafiquants, ils détiennent et exploitent des terres, ils oppriment des millions de travailleuses et travailleurs. Ils sont quand même la forme la plus extrême du capitalisme. Mmh. Ça, il faut surtout pas le nier. Et ils sont clairement nos ennemis. Nos ennemis au même titre que le patronat, au même titre que les possédants. Mais ça, en fait, c'est pas un ministre d'extrême droite hein, qui le dira, lui qui aime par-dessus tout le marché et le capitalisme. Donc voilà, donc il fallait pas s'attendre non plus à une volonté vraiment affichée d'aller faire tomber réellement ces narcotrafiquants à la tête, mais bien encore une fois d'aller taper sur les petits. Parce que c'est bien de taper sur les petits, ça coûte pas cher.
Oui, c'est ça, c'est de l'effet d'annonce. De toute façon, c'est hyper simple, c'est hyper facile. Ça permet de faire des coups dans les médias télé, etc. Dire voilà, ils ont encore fait une grosse opération. Alors qu'en soi, c'est complètement abruti. Et puis, enfin.
Et puis, il n'y a aucun bilan, en fait, qui est fait. Parce que je rappelle que Darmanin avait lancé.
Les places nettes.
Ouais,
XXL.
XXL, je sais pas quoi.
Ouais.
Là, c'était d'un ridicule absolu. D'ailleurs, Villeurbanne a été un des endroits où ça a été expérimenté. Et en fait, ça ne marche pas. Mm-hmm. Parce que tout le monde dit, mais en réalité, à partir du moment où vous enlevez tout, bah, tout revient comme avant. Donc, ça n'a pas d'effet réel. Ça n'est qu'un effet d'annonce, machin. De la même façon, en fait, comme. Je te disais, on parle de 4 milliards de trafic à peu près, hein, c'est les chiffres de l'INSEE encore une fois qui estiment ça, donc c'est peut-être sous-estimé, surestimé, mais en tout cas c'est plus vraisemblablement sous-estimé que surestimé d'ailleurs. 4 milliards en fait, ça fait des tonnes et des tonnes de drogue, hein, de cannabis, de cocaïne, d'héroïne, de drogue de synthèse, ça fait des tonnes. Donc quand Darmanin nous dit l'année dernière on a fait une super année parce qu'on a saisi 20 tonnes, c'est ridicule. Le problème c'est qu'on joue sur des chiffres énormes, donc ça donne l'impression comme ça que tout est très très grand, sauf qu'en fait en réalité on est sur des, enfin en gros on enlève une micro goutte d'eau dans un océan et on s'est dit on a fait quelque chose. Encore une fois, tant qu'on n'ira pas chercher, je l'ai dit et je le redis, tant qu'on n'ira pas chercher les flux financiers qui financent tout ça, et donc en fait les tenants en réalité, les patrons hein, de tout ça, c'est qu'on n'aura pas envie de faire quoi que ce soit. Donc voilà, on est vraiment dans le je compte les morts, je fais un peu semblant qu'il se passe quelque chose, et puis derrière voilà. Et la deuxième aspect aussi, et je l'ai pas dit là, mais je le dis après parce que j'y ai pensé pendant que je le disais, parce que dans ma tête c'était évident, mais je suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que je voulais dire. Il y a aussi un aspect social, c'est-à-dire que la désespérance sociale, c'est un terreau fabuleux.
Je voulais aller là-dessus.
Voilà, c'est un terreau fabuleux pour toutes les personnes qui font miroiter du fric. Et il y a un des trucs qui peut déjà aider rapidement, c'est d'avoir des salaires pour tout le monde, des revenus pour tout le monde, et des revenus décent, c'est-à-dire que d'arrêter de payer des gens à 800 euros par mois et les parquer dans des logements insalubres, vous allez voir, ça va vachement mieux se passer si déjà on sort de ça. Et donc en réalité, les solutions, on les a, elles sont beaucoup plus axées finalement sur un contrer le capitalisme, parce qu'en réalité c'est ça, que sur n'importe quoi d'autre. Et quand on vous dit il suffit de mettre l'armée ou machin et tout, c'est qu'on a d'abord une, on n'a pas d'idée, et deux, c'est qu'on n'a vraiment pas envie de faire grand-chose, quoi.
Oui, c'est ça, parce qu'en plus, on n'a aucune, enfin, il n'y a aucun regard sur, enfin, je veux dire, rares sont les personnes qui ont même qui grandissent à 10, 12, 13 ans en se disant tiens, moi je veux être chouf dans la vie, quoi. C'est-à-dire celui qui va guetter, etc. Donc ça veut bien dire que ça répond aussi à des problématiques de pauvreté, d'exclusion sociale, d'exclusion économique. Et en fait, alors ouais, on peut faire croire que, je sais pas, des gens seraient nés avec des volontés d'être trafiquants. Enfin, je veux dire.
A priori, les Mexicains.
Ouais, non, mais c'est vraiment.
Et mais on, non, mais c'est un exemple typique de.
C'est exactement ça.
D'ethnicisation et de racisme derrière.
C'est exactement ça. En fait, il y a vraiment ce truc-là qui est toujours sous-jacent, qui n'est pas assumé, mais en même temps, c'est ça la différence avec les États-Unis. C'est qu'ici, les fachos savent manier la langue du maître. Enfin bref, et donc c'est vraiment, il y a tout ça, et ne pas voir ça, ne pas se rendre compte de ça, c'est déjà être... Mais de toute façon, ils sont idéologiques. Je veux dire, Rotaillot.
Darmanin
non, si, c'est Darmanin.
C'est Rotaillot, pardon. Oui, Rotaillot le nouveau capo-chef, c'est Rotaillot.
Rotaillot est purement dans l'idéologie. Ah, oui, et tu parlais effectivement là aussi de notions morales. Ce n'est que ça, c'est de la moraline. Je veux dire, quand on sait que les morts de l'alcool, les morts du tabac se comptent par dizaines de milliers, t'as envie de dire, c'est quand qu'ils vont foutre l'armée dans les bureaux de tabac, quoi. Parce que, ah, ça, c'est des dealers légaux. Ah ouais, bah en fait, donc la religion c'est comme la drogue, ou la drogue c'est comme les religions, ça dépend juste de l'officialisation et de la reconnaissance de l'État pour que d'un coup ça ne soit plus un problème, en fait. Donc ouais, ça démontre bien le vide, on va dire, idéologique ou pas.
Enfin, c'est pas un vide idéologique, c'est l'axe idéologique.
C'est ça, l'axe idéologique, ouais, qui est là, quoi. Donc enfin bon, bref, c'est encore une fois, tu le disais très bien, certaines drogues peuvent tranquillement passer dans des belles soirées, dans les beaux arrondissements de toutes les grandes villes, au milieu des bourgeoisies, parce que là, c'est pas grave, chez eux c'est normal. Mais oui, oui,
surtout la
mais
oui. En fait, le truc, c'est ça. C'est
mais
que...
ce que je veux dire, c'est que c'est ça. C'est que, en fait, ça, on vise pas tous les consommateurs, on vise pas tous les trafics, on vise pas. En fait, il y a vraiment purement de l'idéologie. C'est les quartiers, c'est vraiment ça, quoi. C'est les quartiers et les exclus sociaux, quoi.
En fait, c'est une guerre aux pauvres.
Oui.
C'est l'éternelle guerre aux pauvres qui a toujours existé et qui malheureusement se perpétue. Et encore une fois, je leur dis, hein, un des outils et des leviers qui existent, c'est justement d'effacer la pauvreté.
Oui.
Et pour effacer la pauvreté, il suffit pas de la mettre derrière un mur, derrière le périph.
Non, il faut juste qu'ils traversent la rue, normalement.
Mais non, mais c'est-à-dire qu'en fait, il faut mettre de l'argent, il faut mettre des moyens, il faut mettre des emplois, il faut mettre, voilà, il faut mettre tout ça à la clé. Et ça, ils ont pas envie de le faire, parce qu'en réalité, concrètement, un Retailleau, en fait, la situation économique de certains quartiers aujourd'hui, ça lui sert politiquement. Oui. Il est content de l'avoir. Il est content de pouvoir montrer du doigt des gens des quartiers. Il est content de pouvoir sous-entendre.
Ça sert toujours à la division.
Voilà, c'est ça, l'idée, elle est derrière. Et finalement, quand on regarde, parce que tout le monde a les yeux tournés vers les États-Unis, le discours de Retailleau est le même que celui de Trump avec les Mexicains. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une idée qui aurait une sorte d'ennemi intérieur, qu'il y aurait des gens qui finalement seraient contre la France, qui seraient un pays merveilleux, on sait pas d'où ça sort ça, mais voilà, mais dans sa tête c'est ça. Et en fait, en réalité, il se sert de tout ça. Et ce qui, moi, me désespère, et je le dis sincèrement, c'est de voir très peu de gens, finalement, globalement, remettre le social comme étant la vraie solution. Mmh. Parce qu'en fait, tant qu'on dira que la solution c'est d'armer les flics, de mettre plus de flics, ou de remettre la police de proximité, ou des choses comme ça, oui, ça peut être c'est transitoire, c'est des micro-solutions. La vraie solution de sortie, elle se trouve ailleurs, et on le sait. Et il faut arrêter de rêver à se dire qu'on va pouvoir, entre guillemets, mettre un flic derrière chaque Français pour que le pays marche droit. Ça, c'est un truc de facho, quoi. Donc il y a un moment donné, voilà, c'est juste, on les connaît, en fait, les portes de sortie. Sauf que là, encore une fois, pour la 50e fois, j'ai mis 50 fois parce que j'ai pas compté exactement, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à le compter. Je crois qu'il y a 48 lois sur le trafic de drogue depuis 1981, je crois, ou 82. Donc voilà, c'est un truc sans fin. On refait encore une énième sortie, machin et tout. Et
en fait, immigration ou drogue, mais c'est le même combat, quoi. C'est fait, vraiment, on pond des lois
et puis ça alimente, moi, ce qui m'énerve, c'est que ça alimente la machine à fantasmes. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui regardent le monde qu'à travers la télévision ou qu'à travers les réseaux sociaux, parce que faut arrêter de dire que les réseaux sociaux seraient tous de gauche, parce que c'est pas vrai. Ils ont plutôt tendance à être majoritairement plutôt de droite et d'extrême droite. Donc en fait, ils ont une espèce de vision, en fait, en réalité, très biaisée, où on leur dit, ouais, regardez, il y a tant de morts, il y a tant de machins, il y a tant de trucs. Et puis il y a aussi l'effet, comment dire, de l'accumulation des chaînes d'infos qui, toutes les 4-10 minutes, vous rappellent qu'il y a eu un mort à Marseille, un mort à Nantes, un mort à Poitiers, à machin. Ces morts, ils sont inadmissibles. Tout le monde le dit, et moi y compris. Sauf qu'en fait, à un moment donné, bah, c'est pas une solution de surfer uniquement là-dessus et de dire, bah, la solution, c'est d'aller envoyer les flics, d'enfermer tout le monde en prison, de les envoyer à l'armée, quoi. Mmh. J'ai dit, non, en réalité, on résoudra pas le problème comme ça. Et surtout, encore une fois, C'est un marché captif, je le redis. Les gens qui sont dépendants, ils ont besoin de ces produits. Donc en réalité, je les montre pas du doigt parce que c'est terrible d'être dépendant. Mais sauf qu'en fait, ils trouveront un moyen de les trouver autrement. Sauf qu'on réduit pas, on résoudra pas le problème tant qu'on n'aidera pas les gens. Et le problème, c'est une aide sociale encore une fois, et que ce mot semble avoir disparu de tous les discours ou presque. Et c'est peut-être ce qui est inquiétant.
Oui, effectivement. Voilà. On passe à la ZIC.
Allez, c'est parti.
Bientôt.
peu de musique épique dans la causerie sur Radio Canu au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et donc, c'était Ivan Torrent avec Human Legacy. Voilà, c'est un truc qui a été écrit juste pour faire planer.
Ok, je croyais que ça venait d'un film.
Non, non, du tout. En fait, c'est... Alors, tu me lances. Non, c'est un...
Je le lance.
Non, c'est un créateur de musique dite épique. C'est le nom qu'on donne à sa musique. C'est comme Two Step From Hell ou des choses comme ça. Et en fait, il les propose, voilà, et puis les prend qui veut.
Ok, voilà. Très bien.
Et moi, j'aime bien.
Tu fais bien.
Et si vous n'avez pas aimé, tant pis, c'est comme ça. Alors, Jean-Yves, toi, tu voulais nous parler d'un petit écrit.
C'est tout à fait ça.
Enfin, un grand écrit. Je donnerais l'impression que ça veut dire que c'est...
Ah oui, non, effectivement, mais court.
Court. Maigre.
Oui, tout à fait. Alors, des fois, effectivement, alors qu'il faut préparer la causerie à venir, je me retrouve vite d'idées ou trop plein d'infos. Un empilement d'actualités difficile à digérer, tant ce monde est dégueulasse, tant l'apathie générale est tout autant dégueulasse et désespérante. Et au-delà de ce monde et de l'apathie, c'est un peu une forme, non pas de résignation, mais d'impuissance un peu qui pointe son nez. Je pense qu'on peut toutes et tous connaître un petit peu ce genre de moment. Et eh bien ça m'arrive aussi. Et puis des fois, à ces moments-là, je tombe sur des créations culturelles qui font un bien fou à leur manière. Et un des objets qui m'a fait un bien, qui m'a fait un bien fou, qui m'a fait du bien.
Du bien. Et t'as pas offert quelque chose, quoi.
Et dont je vais vous parler ce soir, se nomme humblement Lettre ouverte au banquier séquestré dans ma cave depuis plusieurs semaines. Il a été écrit par Éric Pessan et publié par les éditions Le Réalgar. Alors l'auteur, un peu comme d'habitude, je vous parle vite fait un peu de l'auteur, moi je le connaissais absolument pas, bordelais de naissance, il compte plus d'une trentaine de créations à son actif, des romans, des fictions radiophoniques, des textes de théâtre, mais aussi des textes en compagnie de plasticiens, plasticiennes, et au milieu de tout ça, vous trouvez aussi des ouvrages pour la jeunesse, pour lesquels d'ailleurs il a aussi reçu des prix. Il anime également des rencontres littéraires et des débats, ainsi que des ateliers d'écriture, et il a aussi collaboré à plusieurs revues. Et donc ce court texte, vous l'aurez compris, l'auteur de la lettre, qui est aussi un romancier, aucune ressemblance avec l'auteur, on ne sait pas, a kidnappé un banquier et le séquestre donc dans sa cave. Alors si les premiers jours, le banquier a su se révolter, il a su casser tout ce qui l'entourait, il est et reste mutique depuis, malgré les bonjours, les questions de son ravisseur, vraiment. Malgré aussi les petits plats qu'il lui cuisine, parce que le kidnappé a le droit de manger ce que toute la famille mange aussi. Donc c'est plutôt... Et puis l'auteur se vante d'être plutôt un bon cuisinier, quoi. Donc vraiment, il comprend pas. Et malgré aussi les livres qu'il lui laisse. Parce que c'est un méchant kidnappeur, mais quand même, il lui laisse certains ouvrages, comme Le banquier anarchiste, des choses comme ça, pour essayer de le titiller un peu, pour que peut-être il puisse comprendre ce qui a amené son kidnappeur et son séquestreur, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas celui qui le séquestre, à faire ce qu'il a fait. Mais il faut croire que définitivement, rien ne stimule ce séquestré. Alors l'auteur, il décide de lui écrire cette lettre pour expliquer le pourquoi de cette situation. Et il le dit, l'auteur de la lettre est un ancien militant de gauche. Il se rappelle de son père dans une euphorie qu'il n'avait jamais observée en 1981. Alors pour les plus jeunes, s'il y en a qui nous écoutent, 1981, c'est l'arrivée au pouvoir de la gauche, le PS. Et alors, pour resituer aussi, il faut savoir qu'à cette époque-là, même la LCR, ancêtre de...
Du NPA
et tout ça, était derrière la candidature et le soutien à Mitterrand et tout ça, quoi. Donc vraiment, vous imaginez, quoi. Waouh ! Et puis, je cite l'auteur, « Aussitôt, les images sont écrasées par l'épouvantable conviction d'avoir été trahi. Profondément, totalement, irrévocablement trahi. »
Ah bon ?
Ouais.
Oh, merde.
Non. Et c'est tout cela, en fait, que l'auteur de la lettre interroge. Que nous reste-t-il pour entraver, je le cite encore, l'avancée vers un monde qui nous répugne un peu plus chaque jour. C'est vrai ça ? Qu'est-ce qui nous reste ? Écrire des textes, comme l'auteur, qui ne sont lus, selon lui, que par ceux et celles qui ne pensent que comme lui, même s'il les écrit, parce qu'il le dit, dans toute dictature, le silence est complice. Et donc, il ne veut pas se taire.
Et puis, tu ne sais jamais sur qui tombe sur ton texte.
C'est ça. Ou aussi, là, j'extrapole, mais par exemple, faire des émissions de radio, qui ne sont... certainement qu'écouté par des gens qui pensent comme les animateurs et animatrices.
Ou pas.
Ou pas.
Parce que là aussi, tu ne sais pas dans quelles oreilles tu tombes.
Mais quand tout cela ne suffit pas, que reste-t-il ? Des actes ? Et il le dit, quand la pensée n'est plus partageable, que la gauche est à droite, que la révolution n'est plus possible, que la dénonciation de l'exploitation devient un bien de consommation comme un autre, il reste l'action. Et voilà peut-être un début d'explication à l'enlèvement du banquier. Et si cette séquestration était une affaire de lutte de classe ? Allez savoir. Bref, c'est vraiment un texte très court, hein, il fait une vingtaine de pages, au format A5. Et évidemment, je précise, je ne fais pas un appel ici à kidnapper les banquiers, hein, mais ce texte est quand même assez cathartique, je trouve, hein.
Il fait du bien.
Il fait du bien. Il fait vraiment du bien. Parce que bon, je sais bien que kidnapper un banquier, tuer un patron, bah ça changera rien. Ou au pire, au contraire, ça amplifiera simplement le soutien d'une majorité à un monde, un système économique, un système politique qui favorise une minorité en écrasant cette majorité en fait. Même si là encore, hein, je précise aussi, et puis d'ailleurs l'auteur aussi est dans ses précisions, dans ses subtilités-là, je ne suis pas non plus dans un rejet dogmatique de la violence, hein, qu'on s'entende bien.
Ben, s'il y a une révolution, une révolte, il y a violence.
Et oui, et oui. Donc, et enfin bref.
Enfin, normalement, c'est rare que ça se passe de calmement.
Je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, voilà, je vous invite vraiment à lire donc, cette lettre ouverte au banquier séquestré dans ma cave depuis plusieurs semaines, en espérant qu'il vous fasse autant de bien et pas bah, qu'il m'en a procuré, quoi. Mmh. Dis-moi.
Oui, donc je voulais juste rebondir sur la notion de faire. Parce que tu disais, les actes... On voit aujourd'hui que, on va dire, les protecteurs du capitalisme, du système tel qu'il existe, capitalistique, voilà. Je ne suis pas en train de faire du théorie du complot quand je parle de système, c'est système capitaliste. Mmh. C'est-à-dire le mode d'échange et d'enrichissement de quelques-uns sur le dos de milliards, se défendent de plus en plus. Parce que, regardez, les militantes écolos et militants écolos qui avaient jeté de la soupe sur des tableaux pour dénoncer, en fait, le fait qu'on n'en avait rien à foutre du climat et de ce qui se passait. Il y en a qui ont pris 2 ans de tôle. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont rien détruit, ça doit être très clair, hein, c'est les tableaux qui sont protégés. Au pire, il y a un peu le cadre qui a été un peu abîmé. On se détend, ils sont autant abîmés quand les tableaux sont déplacés. Hein, donc voilà. Donc il n'y a vraiment rien qui s'est passé. Voilà. Et ils ont pris des peines fermes de prison. Alors là, j'ai vu qu'ils avaient fait appel parce que c'est au Royaume-Uni et que donc du coup, potentiellement, ils n'iront pas en prison et tant mieux. Mais on voit à quel point il y a une espèce de volonté de se défendre du moindre acte qui n'est même pas un acte violent. Parce qu'on va être très clair, la famille des tableaux n'a pas porté plainte. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait, à un moment donné, on ne parle pas de... Voilà, c'est comme quand on casse une vitrine. Oui, ça casse une vitrine, mais voilà, il n'y a pas de famille des vitrines. Donc, voilà. C'est à un moment donné, voilà, c'est un petit côté, une défense énorme. Et je trouve que... alors, je n'ai pas lu le texte, mais je le lirai, parce que vraiment, ça m'intéresse. Mais je trouve que cette interrogation, en fait, sur le fait de faire, bah, on voit que c'est très actuel. Parce qu'en réalité, quand des gens font, et pas forcément des choses... hallucinante, hein, et pas forcément des choses très violentes ou voilà, bah la répression est énorme et elle est énorme tout de suite. Et je pense aussi au, je sais pas si vous vous souvenez, au chercheur allemand qui s'était collé la main chez un concessionnaire ou un salon de l'auto Volkswagen, je sais plus trop ce que c'était, pour dénoncer en fait le fait que bah il y avait un vrai problème. Ils avaient même été enfermés par le concessionnaire toute la nuit volontairement, oui. Et tout, et ils sont passés en jugement pour certains, et on leur a retiré le droit d'exercer, c'est-à-dire qu'ils ont plus le droit d'être chercheurs en Allemagne, donc ils sont obligés de s'expatrier, ce qui est en fait une peine de bannissement. Oui. On va être très clair, hein, on en est à bannir les gens. Et ben en fait, en réalité, personne ne se dit c'est disproportionné. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. On se dit, mais ils ont fait que se coller la main chez un concessionnaire. Enfin, ils n'ont pas cassé les voitures, ils n'ont pas mis le feu, ils n'ont pas séquestré le concessionnaire auto. Ben, je veux dire, voilà. Mais on voit que ce système capitaliste se défend. Oui. Et donc effectivement, peut-être se poser la question des actes.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Mais après,
c'est très intéressant de cette notion d'acte. En fait.
L'auteur reste assez lucide sur la finalité de cette action.
Oui, oui, oui. Non, mais tout à fait.
Il va pas plus loin, mais.
Non, mais tout à fait. Mais
une sorte de triste réalisme.
Mais quoi. On voit que dès qu'on commence à bouger, ça inquiète. Donc c'est pour ça que l'apathie dont tu parlais au début de ton texte sur l'apathie générale du moment est très surprenante, parce qu'en réalité, on est dans un moment de fébrilité en fait du système capitaliste, parce que il a très peur.
Oui.
Parce que franchement, pour mettre en tôle des gens qui jettent de la soupe sur des tableaux, c'est qu'il a la trouille. Donc oui. S'il a la trouille, c'est qu'il sait qu'il est en train de se casser la gueule, et que bah si on le pousse poussent un peu, ils risquent de tomber. C'est bien là qu'il ne faut pas être apathique. Et c'est là qu'il s'est fou, parce que c'est le moment où on l'est le plus globalement. Et c'est là que ça interroge. Voilà.
Effectivement. Donc voilà, je vous invite vraiment à lire donc cette lettre ouverte au banquier séquestré dans ma cave depuis plusieurs semaines. Et c'est donc aux éditions Réal, Le Réal Gare. Alors je vous le dis vraiment, c'est un petit peu complexe de le trouver, mais si vous allez sur le site de la maison d'édition, vous pouvez tous les... Enfin, parce qu'il y a une collection en fait, lettres ouvertes. Ça m'a donné d'ailleurs envie d'en lire d'autres. Mais voilà, c'est 5 balles et après vous pouvez essayer d'être à plusieurs à vous l'acheter et vous le partager. Mais voilà, je trouve que c'est vraiment un petit texte qui fait un bien fou. Et pour continuer dans ces infos culturelles qui font du bien, eh ben je vais continuer avec une autre actu hein, culturelle qui effectivement fait du bien dans ce qu'elle porte, dans ce qu'elle dénonce. Et en fait, c'est une courte exposition de l'œuvre Silentium, ce qui veut dire silence en latin. J'espère que je ne me trompe pas.
Ah, du coup, je crois que ça se dit Silentium.
Silentium ? Oui, Clara valide.
Elle est latiniste en
bas. Ouais, c'est la seule, je crois. Hein, ouais. Déjà le français, j'ai du mal, alors t'imagines le latin. Enfin bref, Silentium. Silentium. De l'artiste sculpteur toulousain James Calomina. Alors si son milieu habituel, hein, bah, c'est la rue évidemment, le street artiste, enfin évidemment non, mais le street artiste, ça explique pourquoi son terrain est allé à la rue d'habitude, a souhaité investir une église. Et alors parce qu'il n'avait pas envie, il le dit, hein, d'offusquer les catholiques en exposant son œuvre dans une église traditionnelle, il s'est tourné vers un édifice. Oh là là, un édifice néo-gothique du 19e siècle, désacralisé, appartenant à la commune toulousaine. Et en fait, il le dit lui-même, en fait, ce décor, une église quand même si elle est désacralisée, bah, ça lui a permis de garder les codes de l'église, son ambiance sonore et ses décorations. Et alors, ces sculptures ? Eh bien, il s'agit de l'abbé Pierre, mort, sur un chariot mortuaire métallique, recouvert d'un drap blanc, et qui a une forme suspecte au niveau de l'entrejambe, et pour cause, en fait, il a une érection. Et alors, par cette création, hein, l'artiste souhaite dénoncer le silence entourant les crimes sexuels au sein de l'Église, et il le dit, il veut attirer l'attention sur les horreurs, je le cite, hein, commises au sein de l'Église, en mettant en lumière les abus réels dont l'abbé Pierre et d'autres figures religieuses ont été accusés. Alors l'artiste lui-même, il a longtemps cru, pensé on va dire, que les symboles qu'il nomme sacrés bah, devaient demeurer intouchables en fait, et au-dessus de toute remise en cause. Et en fait il le dit lui-même, mais pourquoi en fait on ferme les yeux ? Et c'est, je trouve c'est hyper intéressant parce que c'est vraiment lui-même en fait qui s'interroge lui-même.
C'est
son chemin à lui, vraiment hein. Et en fait, par son choix hein, de mettre en scène l'abbé Pierre sur son lit de préparation mortuaire, bah James Calomina rappelle hein, que même après la mort, les blessures et les traumatismes causés continuent d'imprégner la mémoire collective, hantant les victimes et l'ensemble de la société. Et il continue, il appartient à la société de soulever le voile pour enfin voir ce qui a été enfoui sous des décennies de silence et de s'interroger sur les cicatrices laissées par ce passé. Alors je pense qu'on essaiera, je sais pas si on a le droit ou pas, mais de vous mettre l'œuvre sur le blog, ou en tout cas chercher, même si vous nous écoutez là maintenant tout de suite, Silentium de James Calomina. L'œuvre, elle est...
C'est écrit C-I-U-M-E. U-M, pardon. Silentium.
S-I-L-E-N-T-I-U-M.
Ouais, T-I-U-M.
S'il te plaît.
On va y aller.
Donc vraiment, enfin, je vous invite vraiment à la regarder. Effectivement, c'est imposant et c'est là quoi. Alors évidemment hein, les réactions sont multiples. Alors si ce fut une découverte hein, pour les premiers visiteurs, justement il y a des médias qui sont allés interroger ces personnes, bah beaucoup disaient bah ça étonne en fait quand on arrive, mais ça questionne en fait. Et une personne dit on est resté un moment assis avant de s'approcher. Et je trouve que c'est intéressant aussi finalement l'art qui vient nous percuter en fait. Et il y a quelque chose de, enfin l'art est là pour ça vraiment.
Entre autres.
Mais oui, mais
il est aussi là pour ça.
Quand il y a de l'art qui peut nous heurter, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ouais. Alors, nous heurter, bref.
Nous interroger,
effectivement, tu as raison.
Nous gratouiller, nous déranger.
C'est ça. Et une autre parle, en fait, de surprise aussi. Hein. Même si parmi les présents et les présentes, en fait, bah, les mémoires reviennent, c'est nécessaire. Et je trouve que ça, c'est aussi intéressant de se dire, ok. Encore une fois, hein, c'est pas la fin de la partie. On sait très bien que les résistances face à tous ces silences qui se brisent, ces voix qui s'élèvent, etc., est dure et résistante. On avance.
C'est pas parce qu'on essaye de nous faire taire qu'il faut le faire.
C'est ça, c'est exactement ça.
Il faut quand même continuer.
Et quand même, ce qui est quand même intéressant aussi, c'est que selon le média en fait qui relate cette courte expo, bah vous aurez pas les mêmes sons de cloche de retour de spectateurs ou de gens qui l'ont vu. Ou d'ailleurs de gens qui l'ont pas vu,
mais qui en parlent sans l'avoir vu.
Bah oui, parce que finalement, il y aura toujours ceux et celles hein, qui seront toujours plus choqués par une sculpture hein, que par des faits, hein, qui seront toujours plus choqués par une sculpture que par les actes criminels de ce serviteur de Dieu, ou encore par les actions au sein de l'Église qui ont permis à découvrir cet agresseur, ce violeur, pendant des décennies, parce que ça c'est démontré, on le sait. Donc c'est encore une fois, hein, et l'artiste il le déclare lui-même, l'art est une arme et je compte bien m'en servir et faire réagir. Et ça, c'est hyper intéressant parce que, encore une fois, l'art qui nous bouscule, qui nous amène à nous interroger, qui nous touche en fait. Alors des fois, on peut être touché sans même vraiment comprendre pourquoi, etc. Mais c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est là où on peut continuer aussi les réflexions parce que, oui, en fait, ce qui dérange beaucoup, big up aux lecteurs du Figaro, on aurait cru que l'Église catholique avait fait un lâcher de croyants sur les commentaires.
Bon, c'est le Figaro.
Oui, en même temps. Mais c'est assez magique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais quand même, il a fait des choses bien. Et alors, en fait, je veux dire, on parle de gens, de dizaines de personnes, à minima, j'ai envie de dire, qui ont été agressés, violés. Alors ton cureton, ton abbé, il a pu bien faire bouffer des gens, mettre des gens à l'abri, il a été une ordure quand il a violé des gens. C'est tout en fait ce que ça dit. C'est juste ça. Et vraiment, encore une fois, des fois quand on a des petits coups de mou, voir de l'art, ça vient nous percuter, ça vient un peu nous sortir de cette apathie qu'on peut nous aussi avoir, intégrer, parce que quand même en ce moment, on a l'impression qu'on cumule toutes les merdes. Même si, bon, en regardant le passé, elles n'étaient pas forcément moins nombreuses, les merdes. Mais
c'est
voilà.
Ça, ouais.
Mais voilà, enfin, juste, je vous invite vraiment à aller regarder cette œuvre. On essaiera de la mettre sur le blog s'il n'y a pas d'histoire de droit d'auteur, etc. etc. Mais vraiment, je vous invite à la voir et peut-être à la faire circuler aussi, parce que finalement, c'est bien aussi de s'interroger en dehors de cette expo, mais de continuer toute cette réflexion autour des positions de pouvoir, autour de ce qui s'est passé autour de ce saint homme, entre guillemets, évidemment. Donc voilà.
Ouais, puis c'est bien aussi, je trouve, tu t'en parlais, d'interroger les symboles millénaires, immuables, que soi-disant on ne devrait pas toucher, tout ça, machin et tout. En fait, parce que quand on n'interroge pas les symboles, en fait, les symboles, ils servent à protéger des puissants. Oui. C'est toujours comme ça, en fait, ou mettre de côté, sous le tapis, ce qu'il y a eu avec l'abbé Pierre et avec les milliers de personnes qui ont subi des violences sexuelles dans l'église. Voilà, je veux dire, je crois qu'il y avait, je sais plus, j'en avais parlé, mais je crois 300 000 personnes. Rien qu'avec, et qu'après ils ont fermé le truc en disant, c'est bon, on a fait le travail, alors qu'on sait que c'est sûrement beaucoup plus que ça. Donc en fait, en réalité, c'est ces symboles-là qui nous arrêtent, qui nous bloquent, qui nous figent, et on le voit parce que dès qu'on commence à parler de ces symboles, ça devient inadmissible. Alors je vais donner un exemple très concret. Moi, je fais partie des gens qui pensent que tous les gens qui croient ont le droit de croire. Je trouve à titre personnel que la croyance est une perte de temps et que surtout ça nous éloigne de la pensée critique et que mais après je vais pas empêcher les gens de ne pas vouloir avoir de pensée critique. Bon. Par contre, j'en ai un peu marre que dans notre pays soi-disant laïque, soi-disant machin, tout ça, en fait, mes impôts financent les lieux de culte, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je dis régulièrement, je l'ai déjà dit à la radio, je le dis aussi dans ma vie, que pour moi, ce serait aux croyants de payer les lieux de culte, parce que après tout, ils se cotisent, hein, et puis voilà, je veux dire, nous quand on monte une asso, Radio Canu, et puis on fait une radio, tu fais pareil, quoi, tu te cotises, alors on me dit oui, mais on peut très bien subventionner au nom de l'histoire, de choses comme ça. Ok, pas de problème, on peut subventionner au nom de l'histoire, mais à ce moment-là les lieux de culte sont désacralisés, parce que ils doivent être accessibles à tous et à toutes, et ils ne doivent pas être des lieux dédiés. Et ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est qu'il est allé chercher une église désacralisée, et moi dans les commentaires que j'ai pu lire, c'est on ne respecte pas un lieu de culte.
Oui, c'est ça.
Non, parce que c'est une église désacralisée.
Oui, c'est ça qui est fou.
Donc en fait, on voit que les symboles immuables, c'est-à-dire que parce que ça a été un jour une église, ça devrait rester ad vitam, machin. Donc moi j'invite, et je l'ai toujours dit, j'invite tous les maires de France qui en ont marre de payer pour réparer les églises qui ne servent à rien, à les détruire. Alors ça choque quand je dis ça. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, tant que votre église sera là, elle appartiendra aux quelques croyants qui restent dans votre commune, qui pourront vous dire, vous n'avez pas le droit d'y toucher parce que c'est un symbole, blablabla. eh ben détruisez-les. Parce qu'une fois qu'elles seront plus là, parce qu'elles vous appartiennent, je vois belle, c'est comme ça. Et puis toutes les églises n'ont pas un intérêt historique, voilà, faut pas non plus déconner. Donc en fait, à un moment donné, ben, tentez le coup. Même si vous le faites pas, mettez un panneau en disant l'église va être détruite parce que j'en ai marre de payer pour... voilà. Et ben vous allez voir que d'un seul coup, le sacré, on a plutôt envie de le sauver. Parce que mine de rien, là d'un coup, on n'a pas envie de mettre la main à la poche pour aller sauver le truc. Donc c'est ça en fait le truc, c'est qu'à un moment donné, on est dans les symboles sacrés n'existent pas. Ce ne sont que ce qu'on en fait, que ce qu'on veut croire qui est sacré. Et je suis moi pour que l'art aille interroger, heurté, dérangé dans la sacralité des choses, parce que c'est là que ça devient intéressant.
Ouais. Voilà. Et puis c'est drôle aussi, dès que les cathos sont mis en question, tout de suite il y a
« Eh ben allez faire ça aussi avec les juifs et les musulmans !»
Alors, vous inquiétez pas, ils y ont aussi droit,
En
termes de poids, effectivement, politique, historique, je pense que la mainmise de l'Église en France a été... quand même beaucoup plus importante, j'ai envie de dire, que le culte juif et musulman, même si, encore une fois, on a tout à fait le droit de s'en foutre et de s'en moquer, mais c'est quand même toujours très drôle, ce truc encore de « oui, mais les autres ». Mais là, pourquoi tu viens sur les autres ? Là, on parle quand même d'un gars qui a été réel et qui a tué, qui a violé, agressé, et tu viens nous parler des musulmans ou alors d'un lieu désacralisé qu'il faudra respecter. Mais et redescendez, quoi. Amenez de la raison, quoi. Parce que là, vous êtes un peu des fous de Dieu, quand même.
Et d'ailleurs, comme tu parles des autres, moi je vais faire un titre perso parce que je vous en ai pas parlé avant. Je vais amener mon soutien au groupe qui s'appelle MeToo Islam, qui aujourd'hui est attaqué très fortement parce que justement ils mettent en avant les cas d'agression sexuelle dans le cadre du culte musulman. Et donc du coup, ben voilà, je leur apporte mon soutien parce qu'on les menace de mort, on menace de les égorger, de les tuer, comme à chaque fois quelqu'un parle. C'est aussi le cas de ceux qui ont fait le MeToo dans l'Église catholique. Je rappelle que ces gentils avait aussi menacé de mort, voilà. Et aujourd'hui, je sais qu'ils en ont parlé, donc je leur apporte mon soutien parce que je trouve qu'ils sont très courageux de porter cette parole et très courageuses parce que c'est beaucoup de femmes. Et donc, du coup, voilà, il y a juste leur dire que la parole, ben, s'il y a besoin, d'ailleurs, la porte de la causerie est ouverte.
Évidemment. Et ben, vu que j'étais dans ces créations culturelles qui m'ont fait du bien, et ben ce qui va venir là tout de suite m'a fait un bien fou aussi. Mais je vous laisse écouter et on se retrouve juste après.
Ils appellent ça le beau temps. Comme des harengs grillés, carbonisés, des crêpes mal famées. Ils appellent ça le beau temps, ce potage bouillant, le soleil fait de joie.
Jusqu'à la dernière note, c'était donc Brigitte Fontaine. Et ouais, je vous avais déjà passé le premier extrait de son nouvel album. Et là, son nouvel album est sorti, donc c'est L'album, c'est Pick Up. Le titre qu'on vient d'écouter, c'est Le Beau Temps. Vous l'aurez compris, un titre complètement fou. Et vraiment, je vous invite à écouter cet album. Je trouve qu'il est... absolument magnifique, touchant. Elle a toujours une capacité, alors une plume qui frappe, quoi, qui frappe au bon moment, dans des textes pas forcément très longs, mais ça va parler autant des discriminations, des violences policières, que du capitalisme, du réchauffement climatique, et tout ça avec une musicalité des plus enivrantes.
Ben ouais.
Enfin, ça fait un bien fou.
On sent dans le titre là une petite touche d'Areski.
D'Areski, ouais, carrément.
C'est très agréable.
Ouais.
Et ça fait plaisir de réentendre Areski parce qu'il avait eu un petit souci de santé. C'est bien de voir qu'il peut encore faire de la musique.
Et ouais, ouais. Et d'avoir cet album de Brigitte parce que pour celles et ceux qui ont pu l'avoir dans ces dernières tournées, c'était waouh. Enfin, en tout cas, moi je faisais pas ceux qui avaient le plus d'espoir. Et là, vraiment, elle nous a pris par surprise. Et c'est un délice. Vraiment. Allez-y, quoi. Et ben, ça va bientôt être l'heure de se quitter, Fab. Il a...
Ouais, j'ai des brèves. Alors, il y a une soirée autour de l'hébergement solidaire et citoyen. Ça se passe, bon, c'est Lyon Info Migration qui organise ça. C'est à 18h30, mardi 12 novembre, à l'Amicale du Futur. Donc, l'Amicale du Futur, c'est 31 rue Sébastien Griff. Il y a aussi une soirée. Alors, attendez, excusez-moi, parce que je me suis un peu perdu. Oui, pardon, il y a une rencontre avec Richie Thibault. Alors, ça, c'est le vendredi 15 novembre pour la sortie de son livre Arrachons une vie meilleure. Alors, Richie Thibault, je vais vous le présenter vite fait. Il est fils de gitan, enfant des classes populaires. Il est issu, je parle en son nom, parce que c'est lui qui l'écrit comme ça. Je suis issu de ces familles dont la politique est considérée comme n'étant pas leur affaire. Mais en 2018, à l'âge de 14 ans, je me suis soudainement retrouvé sur les ronds-points occupés par les Gilets jaunes. Et je ne cesse depuis de parcourir le chemin de celles et ceux qui luttent avec opiniâtreté à travers tout le pays. Donc voilà, c'est pour la sortie de son livre. Donc c'est à l'Atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, à 18h, vendredi 15 novembre. Sinon, le 15 novembre, de 18h à 5h30 du matin, tu as Rituel Free Techno for Refugees au Grand Zéro, hein, c'est une soirée de soutien aux mineurs isolés de Lyon. Donc on y va, même si on n'aime pas la techno, c'est pas grave, on y va par principe. Voilà, non, je plaisante, mais ça permet d'aider en fait les mineurs isolés et c'est vraiment une super belle initiative. Donc il y a plein d'artistes, je vais pas tous vous les lire, hein, vous irez voir. Voilà, sachez que ça dure jusqu'à 5h30 du matin. Il n'y a pas de possibilité de carte bleue au Grand Zéro, je vous le rappelle, donc il faut y aller avec du liquide. Et le Grand Zéro, c'est 60 avenue de Bollène, 69 120 Vau-en-Velin, juste derrière ce qu'on appelle le carré de soie. Donc voilà, c'est à 150 mètres du carré de soie.
Et puis si vous n'aimez pas la techno, ce qui est tout à fait votre droit, vous pouvez quand même aider les mineurs isolés. Il y a des cagnottes, il y a des groupes sur les réseaux sociaux justement où ils vont pouvoir donner des fois leurs besoins et tout ça, parce que c'est l'hiver, parce que les différents squads se font expulser, etc. Dernière preuve, c'était une mairie de gauche à Villeurbanne qui a expulsé un gymnase où il y avait justement ces mineurs isolés qui s'étaient réfugiés. Ouais. Et des camions de CRS à l'appel sont venus les déloger. Parce que vous comprenez bien, ma bonne dame, quand on est de gauche, on... Je sais pas.
Juste une petite note, oui, sur la soirée, parce qu'ils l'ont mis en exergue et donc je vais la lire. Attention, pour notre rituel 3, nous serons particulièrement vigilantes et vigilants vis-à-vis de certains comportements que nous ne tolérerons pas lors de la soirée. L'accent sera mis autour de la prévention des conduites discriminatoires, sexisme, racisme, abus. D'autant que la soirée sera ouverte aux jeunes que nous soutenons. Nous demandons à tous d'adopter une attitude responsable. Faites attention à eux, à vous, à vos amis, dans un esprit de bienveillance. Voilà.
Ok, et eh ben très bien. On va faire...
Ben, faut les rappels.
Ben oui, c'est ce que j'allais faire. On va faire quelques rappels avant de se quitter en musique encore. Alors, vous savez que cette émission se retrouvera sur le blog avec les 537e précédentes. C'est toujours à blogs, avec un s.radiocanu.org/lacauserie. Dans votre petit moteur de recherche, vous pouvez chercher La Causerie Radio Canu. Vous devriez nous retrouver. Vous pouvez nous contacter par mail. Évidemment, si vous êtes artiste, collectif,
association,
auteur, autrice, enfin tout ce que vous voulez, contactez-nous. C'est à lacauseriecanu@gmail.com. Et vous retrouvez aussi la causerie sur un réseau socio-commercial. Ce n'est pas celui de
Elon Musk.
C'est un autre capitaliste. donc voilà, pareil, vous vous tapez La Causerie Radio Canut et vous nous trouverez. Et puis bah, nous on se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain, oui, à partir de 22h sur l'antenne de Radio Canut. On se quitte en musique avec encore un nouveau titre.
Oui, et c'est un titre qui va vous donner envie d'aller jouer au Uno, parce que c'est le titre qui s'appelle Uno, et c'est Astéréotypie. Et Astéréotypie, bah, nous on aime beaucoup.
Oui, qui
Causerie
a aussi sorti son album, l'album est sorti vendredi, ouais, je crois.
Patami.
Patami, voilà. Voilà, donc,
et vous savez pas ce que veut dire Patami ? Bah achetez l'album, vous le saurez.
Et voilà, bah, évidemment. Voilà. Donc on vous quitte en musique, on se donne rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et puis des bisous.
Et n'oubliez, ciao. Et n'oubliez pas, nous ne sommes et vous n'êtes pas seuls.
Effectivement.
Des bisous, salut.
Bisous, ciao. Ciao.
On commence, on fait les règles simples, puis tout se complique après. Encore Christophe, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je peux couper, à toi Thomas. Plus 4, sur un autre, ça passe pas, mais j'ai tenté quand même. Le vert. Moi la prochaine fois, je vais mettre du jaune. Uno. Uno. Des combinaisons parfois faciles et parfois impossibles. C'est le suspense avec de la pression. Il suffit de prendre le temps et mémoriser le nombre qui s'inscrit dans ton cerveau. C'est un partage très sensible et proche d'une perfection hors norme. Bah tu sais quoi, je vais te faire punir. Plus 4, j'ai bien fait. Je demande du bleu. Il faut remonter la pente le plus vite possible. À toi. Change de couleur, je t'en supplie. Bien joué, du vert. Là, je vais faire un coup terrible. Oh, qu'il a bien joué le coup, Thomas. C'est bien joué, ça. Tu le bloques. Tu le gênes. Non, mais pas du vert. Demande du vert. Il n'y a pas le droit de prendre deux cartes. Je tricherai plus, je referai plus, on n'en parle plus.